Hélène La Barrière. La Barrière. Bonjour. 30 ans. Bonjour.
Ladies and gentlemen, may I present now the inimitable, the incomparable, the dynamic, the soulful. Formidable.
C'est Jean-Jacques Birger.
Bonsoir.
Jean-Jacques Birger, le formidable. Ça, c'est bien adapté, je trouve, parce que c'est un exploit à la fois technique, bien sûr, mais artistique aussi. L'objet dont on est là pour parler que.
Carton.
Carton.
C'est Carton qui est formidable.
Pourquoi ça s'appelle Carton ?
Il y a un des titres du disque qui s'appelle Carton, dans Carton, mais c'est pas le même carton. C'est un carton de cinéma muet, celui de la chanson. Tandis que Carton du disque, c'est ce qu'on aimerait tous faire.
Commercial ?
Oh ouais, ce serait bien. Ça changerait un petit peu, oui.
Un carton commercial en faisant quoi à l'intérieur ?
Bah, en faisant des chansons de variété, pour commencer. Ça change d'un drame musical instantané. Et puis cet objet hybride, à plusieurs têtes, carton, c'est un CD extra. Ça veut dire que quand on le glisse dans sa chaîne IFI, c'est un disque avec 14 titres. Et quand on le met dans le lecteur de son ordinateur ou d'un ordinateur, celui des voisins, pour ceux qui n'en ont pas, eh bien ça devient un CD-ROM.
Et est-ce que pour le décrire un petit peu, les images du CD-ROM sont liées directement au morceau ? Comment est-ce que ça s'est construit et conçu, ces deux choses-là ? Ou est-ce que c'est très, très indépendant, avec des liens quand même ?
C'est les deux. Ça a commencé il y a 4 ans quand, avec Bernard Vittet, on a décidé d'écrire des chansons, de revenir à nos premières amours. On était passé par le jazz, la musique contemporaine, le théâtre musical, le free jazz pour Vittet, le rock de mon côté, et puis tout le reste aussi, le cinéma pour tous les deux aussi. On a eu envie de revenir à parler à plus de monde, que nos idées soient plus accessibles peut-être. Alors on a eu envie de faire des chansons. Et puis en septembre dernier, quand on a eu tout fini, Pierre Lavoie de la société Iptique, qui réalise des CD-ROM, nous a proposé de faire un CD extra. On a dit oh oui. Et on a appelé Michel Semeniaco. Michel Semeniaco, c'est le photographe qui travaille la nuit avec des lampes torches, avec des temps de pause très longs, qui éclaire les lieux comme ça, et ça donne ces images noir et blanc absolument extraordinaires. On lui avait demandé de faire le livret, les photos du livret et la pochette. On lui a dit, il y a un peu plus de travail, maintenant on fait un CD-ROM. Et puis on a décidé de garder les chansons comme elles étaient, des petits courts-métrages sonores, des petits courts-métrages musicaux, et que tout ce qui était interactif, ce qu'on appelle peut-être des jeux interactifs, eh bien, ça allait être une nouvelle interprétation de ces chansons, partir des textes, partir de la musique et oublier complètement ce que ça avait donné pour faire autre chose. En même temps, il y a une dialectique qui s'installe entre les deux, entre la version multimédia, la version jeu interactif et la chanson elle-même, puisqu'on peut écouter les chansons depuis son ordinateur quand on a marre de jouer. On nous laisse jouer.
Et également, les chansons peuvent avoir un regard très direct avec ce qu'on peut voir à l'image, c'est-à-dire éclairer l'image, et l'image éclaire la chanson peut-être aussi.
Oui, ça on l'a découvert après. On l'a découvert quand on s'est mis à regarder le produit presque fini, ce qu'on appelle la version bêta. La version bêta, c'est quand on teste, avant de faire la version définitive, qu'on regarde que tout marche, et qu'on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui ne marchent pas.
Mais finalement, au bout du compte,
On a la version définitive et elle marche.
Et elle marche. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le sens par rapport à la technique habituelle du CD-ROM où on a des chemins, des labyrinthes ? Là, j'ai l'impression que c'est conçu un peu autrement.
Il n'y a pas d'habitude vraiment dans le CD-ROM. C'est un médium totalement balbutiant. Si on comparait au cinéma, j'ai l'impression de lire le tome 1 de l'encyclopédie de Sadoul sur l'histoire du cinéma. J'ai l'impression qu'on en est à lumière et que Méliès n'est pas encore arrivé. Tout peut arriver. Là, on a essayé de faire quelque chose bien à nous, comme on a l'habitude de faire, en essayant de faire des choses qui fassent rêver, des choses qui excitent, qui énervent, des choses qui calment. D'avoir des tensions, des détentes, jouer avec les images de ces maniacos, comment passer d'une image à l'autre, comment jouer avec les sons aussi, puisque l'utilisateur devant son ordinateur peut jouer avec les sons. Il y a beaucoup de phénomènes aléatoires dans ce disque. Il y a une très grande richesse. C'est assez rare, ça c'est certain, que pour un CD extra, s'il existe des CD-ROM magnifiques, par exemple celui de Laurie Anderson, Puppet Motel. Il n'existe pas beaucoup, hein. Mais celui-là, par exemple, est magnifique. C'est un travail qu'elle a fait avec un artiste coréen. Il y a très peu de CD extra, cet être hybride. En général, c'est un CD audio normal sur lequel on rajoute un clip vidéo. Puis voilà, c'est une façon de rentabiliser les clips aussi, qui est pas bête. Mais là, on a essayé de faire quelque chose de vraiment original, avec de l'interactivité. Et c'est un produit exceptionnellement riche. Il en existe aussi d'autres, hein, mais c'est assez rare, un produit comme ça, aussi riche au niveau multimédiatique, où on puisse passer peut-être plusieurs heures à regarder les images, à jouer avec les sons, à faire bouger tout ça ensemble, à découvrir du sens, parce que tout ça, ces nouvelles technologies, c'est intéressant que si on a quelque chose à raconter. Autrement, c'est des exercices virtuoses qui, pour nous, sont complètement vains.
Les choses à raconter, on peut aussi se reporter aux paroles des chansons éventuellement, puis revenir aux images ou aux sons du CD-ROM. Mais en tout cas, ça a l'air très ludique.
Ouais,
dans la forme. Mais
vous savez, musique, on dit on joue de la musique.
On regarde un concert.
Oui, mais vous savez bien qu'un drame musical instantané ne fait plus de concert. Je dis un drame musical instantané parce que là, le disque carton, il n'est pas sous ce nom-là. Il est sous le nom de Birger Vitet. Mm-hmm. Mais c'est histoire de pouvoir le placer à variété française et pas simplement à jazz où on va probablement trouver les autres disques du drame. Mais on ne fait pratiquement plus de concerts, c'est exceptionnel. On en fait encore pour des raisons politiques, pour une bonne cause, comme on l'a fait pour Sarajevo. On le fait quand on nous propose de voyager loin. La dernière fois, on nous a dit « Est-ce que vous avez déjà nagé au milieu des pingouins ?» Ah là, évidemment, on a eu envie d'aller faire une tournée en Afrique du Sud dans ces conditions-là. Et puis, sinon, par amitié, comme quand je vais accompagner Michel Houellebecq, Paul le poète, Michel Houellebecq, pour un concert, ou André Velter, qui est un autre poète que je suis allé accompagner il n'y a pas très très longtemps. Mais c'est très rare, c'est un luxe de pouvoir encore aller faire quelques concerts. Sinon, on fait beaucoup plus de studios, des disques, des musiques de films, des musiques de CD-ROM, puisque c'est pas la première fois qu'on fait en même temps une musique de CD-ROM. On avait fait avant, c'est comme ça qu'on a connu la société Iptique. On avait fait la musique au cirque avec Sera. C'est un produit pour la jeunesse. C'est une chose absolument magnifique. Là, il faut 12-13 heures pour le découvrir. C'est très très amusant. On est dans l'univers du cirque et dans l'univers de Sera, le pointillisme.
Oui.
On devrait peut-être écouter quelque chose.
On peut commencer par ça et puis on y revient juste après. C'est donc un premier extrait de ce carton, Birger Vitet.
Ouais, et c'est carton.
Et c'est carton.
Et ça parle de cinéma et de cinéma muet. Thank you.
Un premier extrait de Carton avec Carton, de Jean-Jacques Birger avec nous, et puis de Bernard Vittet avec nous, mais de façon plus...
Il faut bien qu'il y en ait un qui continue à travailler pendant que je viens vous voir. Là, il écrit le prochain.
En plus.
Oui, oui. On est en train de préparer un nouveau CD-ROM. nouveau CD extra, peut-être pour avant la fin de l'année.
Vous êtes très complémentaires alors.
Oui, on travaille beaucoup et on travaille. Oui, vous savez, ça fait plus de 20 ans maintenant que je travaille avec Bernard Vitek quotidiennement. Il faut être très complémentaire si on veut que ça marche.
Qui fait quoi ? Bon, là, on a compris. Il y en a un qui travaille et l'autre.
Bon, le baratineur, c'est moi. C'est pour ça que je suis là. Mm-hmm. Mais il est peut-être plus encyclopédiste que moi. Et moi, j'écris plutôt les paroles. Lui est bien meilleur mélodiste et harmoniste. Moi, je suis l'orchestrateur. Vous savez, c'est pas aussi raide que ça. Hein. C'est-à-dire que j'écris certaines des mélodies. Il va intervenir sur l'orchestration d'autres choses. Mais c'est plutôt comme ça que ça se répartit le travail. La mélodie, l'harmonie de son côté. Plus compositeur, peut-être. Et je suis plus du côté du cinéma aussi. Peut-être plus du côté du multimédia. Mais on est très critiques l'un avec l'autre, donc on intervient partout, à tous les stades du travail, et c'est un vrai travail collectif. C'est un collectif qui remonte à il y a longtemps, puisque au début on était trois, avec Francis Gorgé. On est resté trois au bien 16-17 ans. Et avec les collaborateurs de création, comme sur ce disque, avec Michel Semeniaco, qui est le photographe, avec Antoine Schmitt, qui est le développeur, le directeur technique, celui qui fait que ça fonctionne, qu'il y a des petites choses marrantes qui bougent, des sons qui arrivent à un moment où on s'y attend pas, ou qu'on peut contrôler, c'est Antoine, et Étienne Mineur, qui fait toute la conception graphique de cet univers multimédia. C'est un groupe. Et ça marche collectivement et ça marche ensemble. Et on intervient les uns sur les autres. Voilà, il faut ranger toute susceptibilité de côté quand on travaille ensemble comme ça et se dire que ce qui fait la loi, c'est pas le sujet, mais c'est l'objet. Il faut d'abord que ce soit convaincant. À partir de là, on trouve toujours une solution pour s'entendre et elle n'est jamais réductrice.
Mmh. Ça me fait penser, puisque vous parlez d'un groupe, à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que vous produisez très rarement en concert maintenant. Est-ce que c'est par volonté ? Est-ce qu'il y a une façon de travailler différente, je pense, par rapport à l'instantané, justement, d'être en représentation publique instantanément ?
On peut fabriquer, évidemment, quand on a fait un drame musical instantané, quand on l'a fondé, on faisait énormément de concerts. On jouait presque, je dirais, 5 jours sur 7 et toute l'année. C'est étonnant de penser ça pour des musiciens aujourd'hui. On n'avait aucun problème pour se produire. Il faut dire aussi qu'on a eu des velléités de faire des choses beaucoup plus ambitieuses au niveau des moyens, plus lourdes, et que ça devient plus difficile à faire tourner. Quand on a un décor de 5 étages de haut ou 70 musiciens, ça devient de vrais problèmes. On avait fini par être connus uniquement pour des événements multimédiatiques, mais en concert, en spectacle. Et on avait du mal à jouer en trio, simplement. Personne ne nous demandait de faire ça. On n'attendait pas ça de nous. C'est un peu fatigant, toujours, les grosses machines. En dehors de ça, à votre question sur l'instantané, on peut faire de l'instantané en studio comme on peut le faire sur une scène. On peut improviser un disque. Ça a été le cas du premier disque, Trop d'adrénaline nuit, le premier disque du drame, en 77, je crois. C'est un disque totalement improvisé, mais qui a été fait en studio. En même temps, quand on l'entend, ça ne sonne pas comme de la musique improvisée. C'est des structures toujours très fortes parce qu'il y a un gros travail en amont. Il n'y a pas de système. Il n'y a rien de monomaniaque chez nous. Et je crois que c'est ce qui nous différencie de l'art contemporain en général. Je dis bien l'art contemporain, ça peut être plastique, musical, mais c'est pas parce qu'on a trouvé un truc qu'on va l'exploiter jusqu'à la fin de nos jours.
Mais quand même un disque enregistré instantanément, on peut le réécouter, on peut y apporter des modifications si vraiment ça va pas. On n'est pas mis en danger de la même manière que devant un public avec un concert qui se terminera et les gens s'en iront après, c'est pas pareil.
Ouais, cette notion de danger nous échappe totalement aux uns comme aux autres. Mmh. On n'a jamais essayé de chercher la reine dans les concerts. Bernard Vitek est quelqu'un de très calme. Je le vois mal se pensant en danger parce qu'il se... faut l'avoir vu sur une scène pour vraiment comprendre comment il peut être. C'est pas quelqu'un qui est mis en danger par la scène. À mon niveau, je n'ai absolument pas le temps d'être mis en danger par la scène parce que je manipule des machines complexes qui m'empêche de... Le danger, c'est les machines. Qu'une machine ne fonctionne pas, ça arrive. C'est des choses comme ça, plutôt. L'expression, elle est entière. Qu'on soit... si je lance le magnétophone dans un studio ou que je me lance sur scène quand le rideau s'ouvre, le danger, pour moi, est absolument le même. Le danger, c'est que je voudrais arriver, au bout du compte, à avoir un spectacle qui soit réussi ou avoir un morceau de musique, si c'est de la musique qu'on enregistre ce jour-là, qui soit réussi. Et... vous savez, vous dites on n'en refait rien avec un drame musical instantané, on n'a jamais rien refait. On n'a pas d'alternate texte, on ne fait pas des choses comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Pendant très très longtemps, tous nos disques, je pense jusqu'à Krastinias, donc une quinzaine d'albums, ont été enregistrés live en studio, c'est-à-dire avec du deux pistes mixé, avec des orchestres quelquefois conséquents, c'est-à-dire que sans montage et le mixage, bien sûr un mixage, mais un mixage en direct, c'est-à-dire que je chantais, je jouais et je mixais en même temps. Quand on se retrouvait sur scène, c'était pas différent. Tout le monde trouvait ça extraordinaire qu'on arrive à reproduire nos disques d'une certaine manière sur scène, du moins ce qui était lourd d'arriver à le reproduire. Mais c'était qu'on était déjà en fait sur scène quand on était en studio. Je sais pas si je me fais bien comprendre pour ça, mais pour nous, l'instant, il n'y a pas d'improvisation non plus. Pour nous, on appelait ça instantané parce que c'était de la composition instantanée, c'était en opposé à composition préalable. Composition préalable, composition instantanée. Mais il n'y a pas de génération spontanée. Il n'y a pas de musique spontanée. C'est un long travail, vous savez. Il faut combien de temps pour faire cette toile? Je crois que c'est Picasso, il répondait 5 minutes et toute une vie. Bon, c'est exactement ça, l'improvisation. Pendant des années, on a nié ce concept. Je continue à le nier, hein, je ne reviens pas en arrière. Simplement, bon, on devient moins intégriste sur les termes en vieillissant.
Est-ce qu'on écoutait tout à l'heure Carton? Pour revenir un tout petit peu en arrière, quand on regarde le CD-ROM à la plage Carton, qu'est-ce qu'on peut y voir?
On voit des images de films muets. Mais ces images sont un peu étranges parce qu'on connaît ces images et ce ne sont pas les images des films. C'est un travail que Michel Semeniaco a fait en photographiant les objets du musée du cinéma au Trocadéro. Alors, on voit le robot de Metropolis, on voit une tête de Méliès, on voit des personnages d'Hitchcock, une femme avec un grand décolleté, là, et ce visage de la mère de Anthony Perkins dans Psychose. On voit des décors de Trauner, on voit des choses assez magiques avec un noir et blanc comme on n'en voit plus au cinéma. Quelque chose qui a à voir avec la pellicule panchromatique
un peu vieillie.
Ah oui, parce qu'en plus on a vieilli les images de Semeniaco, on leur a mis des pétouilles, on a fait des rayures sur le film, on a donné cette illusion que c'était du cinéma et que c'était des images de plans
en
mouvement, alors que c'est des plans fixes, mais on a donné cette impression qu'on est dans une salle de cinéma et que c'est une projection. Et qu'on est, nous, à côté de ces deux amants dans la salle, à côté d'eux, peut-être l'un d'eux. C'est ce qu'on a essayé de rendre comme effet aussi avec ces extraits de films qu'on entend. C'est une chanson qui est entièrement écrite à partir de titres de films rares, des titres de cinéphiles. Presque toutes les paroles sont rappellent un titre de film. Certains sont plus connus que d'autres. Mais peu de gens ont vu De l'aube à minuit ou La route parallèle, qui sont des films absolument sublimes et qu'on ne voit qu'à la Cinémathèque française.
Alors peut-être un deuxième extrait maintenant. Ce serait lequel?
Ben alors là, on changerait radicalement. On passerait à Dodécaquac.
Dodécaquac.
Ouais, c'est Bernard qui chantait l'autre. Là, je chante celle-là. Dodécaquac.
Cascadeur du Cancadu. doigts de kir ou du déca, dans deux doigts d'eau, on dit que d'eau, d'un cul que dalle, du cul, d'accord.
Dodécaquac, comme on l'aura compris. Alors si je me souviens bien...
Vous avez compris dodécaquac?
Tout de suite, immédiatement.
Ça, c'est évidemment un hommage à Bobby Lapointe, hein, travailler comme celui-là, mais ça a été très long arriver à écrire ça, ça n'a pas été facile.
Si on lit tranquillement, ça donne que de coda.
Attendez, je vous arrête tout de suite parce que vous n'avez pas de problème avec la censure, Commission supérieure technique, CSA.
Que de coda codés qui durent, des codères, des cador, des cadeaux du kid qui dort. Bon, je m'arrête là, ça dure toute la page.
Ouais, vous avez raison de vous arrêter là parce qu'après on a un problème.
Et donc si je me souviens bien. Je ne suis pas complètement sûre non plus. Ça donne lieu à un jeu du même ordre sur le CD-ROM.
Un jeu de mots.
Un jeu de mots possible.
Ouais, pas le même.
Pas le même.
Un jeu de mots, oui. On se promène sur des syllabes qui fabriquent des mots sonores. Voilà. Et c'est très amusant. Et il y a une façon de se promener sur la page, simplement en caressant l'écran. On a évité beaucoup le clic de la souris. Quand c'était possible pour faire des choses plus sensibles avec simplement ce qu'on appelle un rollover en termes techniques, mm-hmm. qui permet de caresser l'écran comme ça en passant sur des zones sensibles de l'écran.
Et donc on peut faire des jeux de mots très presque à l'infini en fait.
Bah ça dépend de la programmation, ça dépend de ce qu'on a conçu et ça dépend du travail développeur.
Avec ce qui est proposé.
Ah oui dire. Oui on peut dire ça. Je pense pas que ce soit infini. Je pense que c'est un nombre fini. Je pense que c'est un nombre fini, mais on peut y passer.
Oui, c'est
du
un nombre fini, effectivement, ouais. On peut le calculer, ouais. Forcément.
Ah ouais, celui-là, mais oui. Bon. Mais il y a des choses qui sont infinies. On est en train de préparer des choses qui sont infinies. Il y a des solutions infinies, bien sûr.
C'est ça qui est très attirant, d'ailleurs, dans ce CD-ROM. C'est qu'il n'y a pas de chemin tout près qui sera toujours le même si on revient au même endroit. Il peut se passer autre chose. En tout cas, l'ambiance, l'atmosphère peut être différente. Il y a toujours beaucoup de possibilités, donc a priori, c'est pas répétitif. Si on prend le même chemin, tout d'un coup, on arrive ailleurs aussi.
Oui, ou on y arrive différemment, au même endroit. On a toujours essayé, avec des systèmes aléatoires, de pas avoir cet effet répétitif que moi j'appelle pavlovien un peu. On se dit, on a l'impression quand on s'amuse avec des CD-ROM, parce que bon... En ce qui concerne les CD-ROM genre encyclopédique, dictionnaire, etc., c'est encore une autre histoire. Mais avec tous ces trucs un peu bizarres comme ça, on a l'impression de revenir en arrière, c'est assez pénible. On a l'impression de déjà vu, souvent, de déjà entendu. Donc on a essayé, que ce soit au niveau des images ou au niveau des sons, de créer des petites librairies de sons, de librairies d'images. Et pour le même effet, au même endroit, on ne va pas avoir le même son ou la même image la prochaine fois qu'on y reviendra. C'est très important, c'est ce qui va donner... J'ai envie de dire de l'humanité à ces machines qui en sont totalement dépourvues.
C'est l'humanité programmée.
Voilà. Ouais. Bah, on est bien parti. Ouais, voilà. Oui, bah, on essaye évidemment de. Vous savez, on essaye toujours de. Le travail qu'on a eu avec Bernard, ça a toujours été de salir les choses propres et de rendre propres les choses sales. Alors c'est normal qu'avec les machines, on essaye de les humaniser. Ce qui ne veut pas dire qu'avec les humains, on essaye de les mécaniser. Loin de là. Mais il n'y a pas de système. Je crois que chaque fois qu'on essaye d'appliquer un système à l'être humain, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
Donc des erreurs qui génèrent des...
En ce moment, ça génère plutôt des catastrophes, les erreurs. Si on regarde l'humanité à l'endroit où elle est aujourd'hui, non, ça marche mal.
Ça, on pourrait y revenir.
Bah ouais, je crois y revenir. Je crois qu'on n'a qu'une seule vie. Je crois qu'il va falloir la vivre tout de suite. Mm-hmm. Je crois que c'est trop tard s'il faut y revenir.
Si, dans un petit instant peut-être. Il y avait, puisqu'on a parlé tout à l'heure, simplement pour suivre le fil d'une idée qui était l'instantané. Est-ce qu'on pourrait aussi parler du drame, à savoir dans le titre du groupe, et puis aussi, j'ai trouvé ça dans la pochette, la photo de pochette où vous êtes tous les deux, elle est présentée aussi comme un instant dramatique, un drame qui fait que vous sortez de l'ombre et qu'on aperçoit vos deux visages dans la lumière. Qu'est-ce que ça recouvre, cette notion de drame ?
Le théâtre avant tout, c'est pas le drame opposé à la comédie. C'est vraiment ce que ça a de fictionnel. C'est de se dire que, par exemple, quand on monte sur une scène, même si on ne fait qu'un concert, c'est quand même une image, on produit une image, et autant maîtriser cette image, autant la mettre en scène, autant savoir ce qu'on fait et pourquoi on est là. Mais le drame, c'est ça. Il y a dans un drame musical, sinon, drame musical, c'est mélodrama en italien, mélodrama, mélodie. Et c'est l'opéra. Alors il y avait cette idée, quand on a appelé un drame musical instantané, il y avait aussi, si on veut faire de l'étymologie, l'unicité, chaque fois différent. On retrouve ça encore avec ce dont on parlait tout à l'heure, sur revenir au même endroit et que ce soit différent. Et l'instantanéité, c'était ce dont on a parlé, on parlait d'improvisation, mais c'était aussi le rapport encore une fois au cinéma. Cet arrêt sur image, un 24e de seconde, ces photogrammes de cinématographe, c'est une fille qui tombe d'un étage haut, et quand on fait la photo vers le quatrième, ouais, c'est des trucs comme ça qu'on essayait de faire. Mm-hmm. Des moments qui ne seraient plus jamais et qui ne l'auraient jamais été, juste cet instant-là. On était très très... pendant longtemps, on a travaillé sur l'arrêt sur le mouvement...
Oui, le mouvement, l'arrêt du mouvement.
Ouais, l'arrêt du mouvement, mm-hmm. Comme ça. Essayer de comprendre comment le mouvement, ça fonctionne quand on le démultiplie. C'était notre période mi-bridge, fusil de marée. Ouais, bon, c'est l'ancêtre du cinématographe.
Mm-hmm. Et oui, d'ailleurs, puisqu'on parle de la fille qui tombe, c'est vraiment très, très proche, cette image du drame musical instantané. Puisqu'en plus de ça, dans le CD-ROM, on peut la ralentir et la faire passer un peu moins vite
Non, on ne peut pas l'empêcher de tomber.
Elle tombe quand même. Elle tombe moins vite.
Ça fait moins mal quand elle arrive en bas. Ouais, c'est vrai.
Par rapport à la chanson, peut-être, qu'est-ce que c'était l'idée de ça ? Il y a toujours...
Ah, je ne l'ai pas poussé. Si on écoutait, je ne l'ai pas poussé. C'est l'index 9 dans le disque carton. Ce serait bien de l'écouter, puis comme ça on va...
On en parle juste après.
Ouais, on en parle juste après, parce que c'est une chose vraiment tellement grave sur le CD-ROM et tellement légère quand on l'entend.
Je n'ai pas voulu ça, je n'étais pas là, je l'ai pas poussé. C'est par la fenêtre qu'elle est ouverte, qu'elle est tombée. On avait tous un peu bu, un peu plus qu'on avait cru. Et pourtant je l'aimais d'amour. On s'était connus, s'était tout vu, on s'est perdu. Nous deux ingénus avions vécu et perdu. J'avais bu toute la nuit dans tes yeux qu'on était complètement cuit. Et maintenant, j'attendrai mon tour.
Allez hop, Tout le monde les mains sur la tête. S'il y en a un qui bouge, il a mon poing sur la gueule.
Regardez-moi dans les yeux. Qu'est-ce que vous me chantez à monsieur? Il faut vous les tirer. Tirez les vers du nez. Mouchez-vous, faites pas le fou. Gardez votre sang-froid. Croyez-moi, avouez-moi tout. Je n'ai pas voulu ça, j'étais pas là, je l'ai pas poussé. Je la connaissais pas, non c'est pas moi, je crois pas. Elle était trop abîmée et je n'ai pas pu réussir à la rattraper. Mais cependant moi, je l'aimais d'amour.
Je ne l'ai pas poussée, mais elle est bien tombée pourtant. Cette pauvre fille, elle est... Quoi qu'il arrive, elle traverse des photos magnifiques, des paysages très beaux, et puis mais malgré tout, elle tombe. Et avant qu'on comprenne qu'en cliquant, on peut la faire ralentir un peu, c'est déjà moins stressant, moins paniquant, sinon ça défile à toute vitesse. Et elle tombe, il n'y a rien à faire. Mmh. Alors ça, c'est paniquant.
Bah, c'est paniquant, ça dépend. Ouais, c'est paniquant de vivre. Ça parle de la difficulté d'être, dont parle Cocteau. Ça parle des paradoxes de l'existence. Quand on a 20 ans, tout est facile. On peut avoir des positions tranchées. Puis un jour, plus tard, on vit pas des contradictions, mais des paradoxes. Et on se rend compte que c'est pas si simple. Je l'ai pas poussé, pourtant elle est tombée. On se demande si c'est pas lui qui l'a fait tomber. Pourtant il l'aimait, pourquoi il l'aurait poussé. C'est pas simple. Il n'y a rien qui est simple comme ça. Pourquoi est-ce que Deleuze s'est jeté par la fenêtre? Est-ce que c'était pas simplement parce que lui qui ne pouvait plus bouger et qui aimait tant le mouvement, ça lui permettait une dernière fois de bouger et de magnifiquement bouger? On ne sait pas.
C'est difficile de reprendre la parole juste après. Je pensais, en entendant cette chanson, à l'idée que malgré, avec toutes ces magnifiques images sur le CD-ROM, malgré tout la musique, elle est très génératrice d'images, un petit peu comme une bande-son d'un film imaginaire.
Mmh. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on a toujours... On a toujours essayé de fabriquer des courts-métrages sonores. Vous savez, je m'appelle souvent cinéaste de l'oreille plutôt que compositeur de musique. J'aime avant tout la fiction. Mais en même temps, ce que j'aime dans la fiction, c'est le reportage. Comme ce que j'aime dans le reportage, c'est quand on se dit que ça pourrait être une histoire inventée. Qu'on sache pas où est le début de l'un et le début de l'autre, la fin de l'un et le milieu de l'autre, tout ça se mélange et qu'on ne sache plus. C'est ce que j'essaye encore une fois de retrouver partout, et le cinéma, c'est quelque chose qui est tellement présent dans tout ce que nous faisons avec Bernard. Vous savez que moi je suis en même temps cinéaste, pas seulement compositeur de musique, donc c'est vrai, j'essaye probablement qu'au cinéma, j'essaye de faire de la musique, de rythmer les images autrement, que ce soit structuré comme un jour une sonate, un autre jour quelque chose de très rythmé.
Et d'ailleurs, comme il est cité dans les remerciements, on peut faire le lien assez rapidement avec Frank Zappa qui, évidemment, travaille beaucoup ses musiques comme une bande sonore de quelque chose.
Ouais, si je devais faire une comparaison entre notre travail et celui de Zappa, pour ce travail-là, Carton, c'est l'histoire des chansons. Zappa n'a jamais voulu écrire des chansons, mais il s'est rendu compte que s'il voulait qu'on l'entende et qu'on l'écoute, il fallait qu'il fasse des chansons. Mais ça n'a jamais été son propos, il avait envie d'être un compositeur de musique, ce qu'on appelle en américain comme moderne classique, contemporain, mais j'aime pas du tout ce terme parce que c'est comme si les autres musiques n'étaient pas contemporaines alors qu'elles le sont probablement plus que la musique contemporaine qui est un peu datée aujourd'hui, c'est-à-dire qui n'est plus en rapport avec son temps, anachronique. Il y a, bon, Évidemment, cette idée de les chansons, ça va peut-être permettre de s'adresser à plus de monde. Je sais que c'était très important chez Zappa. En dehors de ça, où il y a beaucoup de points communs dans des façons de regarder le monde, d'être un philosophe de bistrot, ce qui était Zappa et ce que nous espérons être. Quoi, c'est facile d'être un philosophe de bistrot tant qu'on garde la particule de bistrot. C'est pas trop prétentieux. Mais oui, il y a cette idée-là. On retrouve ça avant Zappa. Quoi. Zappa, ça vient de Charles Ives. Ives, c'était quelqu'un justement qui essayait de raconter aussi des histoires avec la musique. Qui faisait jouer des orchestres, plusieurs orchestres simultanément, qui introduisait des instruments bizarres à l'intérieur d'un pupitre de 40 guimbardes dans une symphonie ou des choses comme ça. Et je pense que Ives a fabriqué de la musique de film avant que le cinéma existe. Et Zappa devait beaucoup à Ives, comme la plupart des compositeurs américains d'ailleurs, devait à Charles Ives énormément. Alors d'où vient Charles Ives, c'est une autre histoire. Il connaissait quand même Berlioz. Ça doit être un Américain, j'imagine qu'il connaissait Berlioz. Et Berlioz a aussi fait des choses comme ça. Il a fait du théâtre musical. Berlioz a fait des choses complètement étonnantes qu'on connaît mal. L'Hélio, qui est la seconde partie de la Symphonie Fantastique, où il y a un récitant devant un rideau, l'orchestre est derrière le rideau. On ouvre le rideau, le compositeur est là et dit non, alors là vous pouvez pousser le piano là un petit peu, puis remettre les instruments comme ça. Il y a des cordes qui sont en coulisses. C'est complètement étonnant. Il insulte les critiques qui l'ont incendié. Et tout ça est écrit dans sa partition. Tout ça, c'est bah oui, il faut bien qu'on ait des, qu'il y a des paternités. Vous avez vu, il y a un paquet de remerciements. Bah oui, c'est qu'on se rend bien compte qu'on n'invente rien. Que personne n'a jamais rien inventé. Évidemment, c'est la façon de synthétiser tout ça. C'est la façon de mettre les choses, de monter les choses. Encore une fois, comme le montage au cinéma, mettre deux plans en rapport et que ça raconte quelque chose. Parce que comme dit l'autre Godard, dans le montage de deux plans, ce qui est important, c'est pas ce qu'on garde, c'est ce qu'on enlève. Alors c'est toujours ce qui fait, c'est ce qui nous fabrique, c'est ce qu'on enlève, c'est pas ce qu'on garde.